Mais d'abord, on accueille un organisme présent dans la vie de nombreuses personnes handicapées depuis 35 ans. Leur dévouement permet à plusieurs personnes de retrouver une autonomie qu'elles ont parfois perdue et de favoriser leur inclusion sociale à tous les niveaux. Canal M est très heureuse d'accueillir M. Nicolas Saint-Pierre, directeur général de MIRA. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation.
On va y aller d'abord. MIRA, on connaît surtout de nom, c'est présent dans notre société depuis longtemps. Par contre, on connaît pas toujours bien l'organisme. Je vous demanderai de nous faire un petit historique.
MIRA, ça vient d'une passion pour les chiens que mon père avait au début des années 80, puis à l'époque, les personnes aveugles n'avaient pas de service au Canada en français. Donc, lui était un passionné de chiens, il entraînait des chiens pour les personnes privées et tout ça. Puis à un moment donné, il y a une personne à Québec qui l'a contacté, qui avait des problèmes avec son chien américain. Puis il est allé voir ça, puis le coup de foudre s'est passé. Donc, la curiosité... de comment fonctionne un chien pour les personnes aveugles, tout ça, comme sorti, ça a été comme le cœur y a explosé pour cette cause-là, de voir ça, puis surtout de jumeler la passion des chiens avec une vraie utilité pour vraiment faire du sens pour des gens handicapés dans la vie. Donc ça a été ça, puis ça a commencé vraiment tranquillement. On avait une petite maison, on avait un chenil, il faisait de l'obéissance de base à l'époque, puis là, il a tout lâché ça. On a commencé à vendre des petites pines en plastique, écrit MIRA dessus. On a fait le tour des centres d'achat. Le monde ne nous connaissait pas. Moi, j'étais tout petit. J'avais à peu près, je pense, j'avais 7 ou 8 ans. Puis j'avais la coupe Longueuil. Fait que tout le monde me trouvait bien. Il disait, hey, non, mais belle, cette petite fille-là. Mais moi, j'avais un bandeau. J'essayais les chiens de mon père dans les centres d'achat. Puis bon, ça a commencé comme ça. Puis tranquillement, l'expertise s'est développée. L'association avec l'INLB, Carole Zabiello puis Hélène Guérette, qui étaient deux instructeurs jeunes à l'époque d'ONM, se sont partis avec ce projet-là d'essayer d'améliorer de comment on donne des chiens guides aux personnes aveugles, comment on les prépare en amont, avant d'avoir des chiens. Toutes les habiletés qu'il faut requiert avoir un chien guide avant de partir avec un chien, les classes, comment on attribue les chiens, après ça, bien évidemment, tout le côté de l'élevage, l'amélioration de notre élevage, nos chiens. Fait que ça a parti comme ça, puis ça a été vraiment une brique à la fois que ça s'est construit, cette organisation-là.
Mais vous, ça fait vraiment partie de votre vie, en fait, depuis très longtemps.
Ouais, moi, mon parfum, c'est Chanel numéro 5.
D'une bonne blague.
Ah ouais, pas pire.
J'aime bien. Quelle est l'origine du nom MIRA? Pourquoi avoir choisi ce nom?
C'est un des premiers chiens qu'on a entraîné qui s'appelait Mirabelle. Puis les entraîneurs, on a tous la même maladie. On finit toujours par couper les noms des chiens en deux. Donc mon père entraînait Mirabelle, mais il l'appelle tout le temps MIRA. Puis ça a été comme un hasard de s'apercevoir aussi que MIRA, ça voulait dire « regarde ». Donc, en espagnol. Donc, ça a été ça. Ça a été vraiment un concours de circonstances aussi banal que ça.
Mais qui a vraiment été efficace,
ouais,
on
absolument.
Peut dire. Le hasard a très bien fait les choses. MIRA, donc, présent au Québec depuis le début des années 80. Est-ce que c'est partout dans le Québec qu'on trouve des bureaux ou comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un centre d'entraînement pour les chiens à un seul endroit?
Ben oui, le centre d'entraînement est à Sainte-Madeleine, sur la rive sud de Montréal, entre Saint-Hyacinthe et Saint-Hilaire, si ça peut être un peu plus précis. Puis, c'est vraiment là que tout l'entraînement, l'élevage, où est-ce que les familles d'accueil viennent chercher les chiots, tout ça, les bureaux, vraiment, la maison mère est là. On a aussi des installations à Québec, un entrepôt pour les cartouches d'imprimantes usagées qu'on récolte, qu'on fait à la cueillette à travers le Québec. C'est une façon de se financer. Puis ça, c'est vraiment un bureau de financement. Puis strictement, construit pour les cartouches d'imprimantes usagées.
Et par exemple, les résidents, est-ce que les résidents de tout le Québec peuvent vous contacter pour avoir un chien guide?
Absolument. Québec, Canada, là, on n'a pas de frontières, on n'a pas de limites. On a des chiens, on a donné des chiens en Alberta, on a quelques chiens en Ontario. On a aussi quelques chiens dans les maritimes. Donc, nous, on n'est pas. C'est bien rare qu'on dit non, tu viens du Manitoba, puis on ne te servira pas.
Mm-hmm.
La plupart du temps, c'est plus le contraire. Il y a d'autres écoles, quand même, au Canada, anglophones, puis il y a une limite naturelle qui est. Les anglophones sont un peu plus frileux de venir au Québec pour avoir un chien en français, mais pourtant, on peut très bien les servir en anglais, puis les chiens. Ça dérange pas qu'on parle français ou anglais, là, ça n'a pas vraiment d'importance pour la qualité du travail des chiens et l'efficacité.
OK, c'est pas quelque chose qui rentre en ligne de compte
non,
lors de l'apprentissage.
Non, absolument pas.
Et comment ça se passe, justement, cette formation pour les chiens? Combien de temps ça dure?
Bien, les chiens guides, on les entraîne pendant 6 mois, mais tout le processus est un peu plus long parce que, bon, les chiens ils partent en famille d'accueil, ils ont 9 semaines. Ces chiens-là sont suivis pendant une année par nous. Évidemment, ils viennent se faire radiographier à l'âge de 6 mois. Ils reviennent à 1 an. Entre ça, il y a quelques rencontres de comportement. Si ton chien est un peu plus difficile à manipuler, à avoir, à vivre avec, bon, ben, nous, on essaie d'encadrer le plus possible ces familles bénévoles-là. Parce qu'il faut le dire, sont bénévoles. Puis bon, c'est ça. Fait que là, ça, c'est toute la première année de vie du chien. Ensuite, on les évalue, ces chiens-là, on les regarde on a une base d'évaluation qui est assez stricte et vraiment tout bien ordonnée. On regarde ces chiens-là, la qualité, on regarde la qualité de leur tempérament, on regarde la qualité de leur état physique aussi, si c'est des chiens qui ont des boiteries, pas de boiteries, ils peuvent avoir des maladies et tout ça. Puis quand que tout ça est passé, mais là, on sélectionne les meilleurs candidats pour chaque programme. Donc, là, après ça, le programme d'entraînement, c'est de chien guide. Spécifiquement, c'est 6 mois. Un vrai 6 mois d'entraînement. Donc, c'est assez long. C'est fastidieux, mais c'est très, très bien organisé. On a des blocs d'entraînement. Au niveau du temps d'entraînement, c'est assez bien construit. On est capable de dire quand même si ça reste qu'on travaille avec du vivant, il faut quand même dire qu'on est dans un... On a quand même une bonne idée de l'échelle puis du temps qu'on a pour entraîner nos chiens, là.
Et quelle race de chien est-ce que à qui vous faites affaire ou utilisez? J'aime pas ça utiliser ce mot, mais...
Oui, mais non, mais c'est vrai, c'est ça aussi. Là, on travaille beaucoup avec le Labrador, le Bouvier bernois, moins qu'avant, mais on a vraiment évolué sur notre croisement qui est le Bouvier bernois-Labrador, qu'aujourd'hui on appelle le Saint-Pierre, qui est un chien que ça fait, je pourrais dire, ça fait à peu près 15 ans qu'on travaille dessus. Au début, c'était le boulab. Puis finalement, on s'est mis à croiser les boulabs ensemble. Puis tranquillement, il y a eu le labernois. Le labernois est devenu le Saint-Pierre. Donc, on est encore dans un work in progress, là. Le chien, il est mieux qu'il était avant. C'est un chien qui est extrêmement intelligent, qui a retiré les qualités des deux races d'une façon assez exceptionnelle. C'est un beau hasard. Mais ils ne sont pas parfaits. Mais ça s'en va quand même très bien. On a des chiens qui sont exceptionnels. Puis, tu sais, ça reste des chiens. Hein. À un moment donné, on n'est pas capable de prévoir la vie.
Absolument.
Mais en gros, on a une bonne moyenne au bâton quand même, là.
Mais il y a certains traits de caractère que vous recherchez, justement,
oui.
Vu ce que vous évaluez les chiens à 6 mois, à 1 an plus tard.
Mais on garde, tu sais, premièrement, il ne faut pas que ça soit agressif, les chiens. Il faut que ce soit des chiens qui sont calmes. C'est des chiens, normalement, qui ont une vie qui sont... dans une vie qui est plus urbaine ou très sociale. Donc, c'est des chiens, il faut qu'ils soient sécuritaires pour les utilisateurs et pour les gens qui entourent les utilisateurs. Ensuite, bon, évidemment, on ne veut pas de peur, on ne veut pas de chiens qui sont trop attirés vers les autres animaux, naturellement. Donc, l'activité, pas trop excité. Donc, tout ça mélangé ensemble, ben, ça fait qu'on essaie de trouver les meilleurs candidats possibles pour partir sur le line-up d'entraînement.
Mira a remis plus de 2000 chiens d'assistance,
ouais.
Des chiens guides, depuis sa fondation. Ça représente beaucoup d'argent, parce qu'il faut le dire, vous les remettez gratuitement aux
Absolument.
Gens qui en ont besoin. Et former un chien, ça coûte 30 000 $.
Oui, environ 30 000.
Donc, on parle d'un total jusqu'à maintenant de 60 millions.
Mais ça a du bon sens.
Même.
Depuis 80, ça fait 35 ans qu'on en donne. Évidemment, au début, ça n'a pas commencé qu'on s'est mis à donner 45 chiens par année. Là, ça a commencé par 3, 6, 8, 12. Puis après ça, on est tombé dans une genre de vitesse de croisière qui était environ d'une quarantaine par année pendant plusieurs années, mais qui étaient des chiens guides. Mm-hmm. Puis là, les autres programmes sont apparus tranquillement parce que, bon, les autres programmes, on a eu des demandes, puis on produisait plus de chiens. Puis il y avait des bons chiens qu'on prenait pas comme chiens guides parce qu'il y avait des petites affaires qu'on n'aimait pas, genre pas trop d'activité, trop actif ou trop excité, je sais pas, des petites peurs, mais qui sont pas majeures pour quelqu'un qui voit, qui peuvent être majeures pour quelqu'un qui voit pas. Donc, là, on s'est mis à travailler et à développer le programme des chiens d'assistance.
Justement, les chiens d'assistance, c'est cette diversité, en fait, de programmes. On va en parler tout de suite après avoir pris une petite pause musicale. Mais juste avant d'y aller, je voulais qu'on aborde cet aspect du financement, qui est quand même très, très important.
C'est le nerf de la guerre.
C'est le nerf de la guerre pour de nombreux organismes, mais particulièrement vous, vous n'avez pas de subvention gouvernementale.
Non, on n'a aucune subvention. On n'a jamais été dans aucun programme gouvernemental pour se financer, ni pour construire les hébergements, ni pour aucun programme.
Absolument. Pourquoi?
Ah, différentes raisons. Au niveau, bon, quand mon père était à la barre, lui, il avait pas envie de travailler avec le gouvernement parce que c'est fastidieux, parce que faut que, bon, disons que tu vas chercher un financement, donc faut que tu remplisses des rapports, faut que tu rentres des comptes finalement. Mm-hmm. Ce qui enlevait beaucoup de latitude et de liberté dans la créativité qu'on avait à l'époque. Quand on a commencé à donner des chiens aux enfants, personne ne faisait ça dans le monde au début des années 90. Donc, je pense que c'est vraiment un choix de pouvoir garder notre liberté, puis d'avoir complètement notre identité qui nous est propre, là.
Donc, c'est
un choix stratégique. C'est un choix stratégique, mais en même temps, ça reste quand même que ça veut pas dire que la côte est plus facile à monter, là, on s'entend. Mais je crois qu'on s'en tire très bien. Puis la communauté nous supporte tellement d'une façon exceptionnelle que je pense que c'est juste à nous d'avoir des beaux projets, d'arriver avec de la créativité. Le monde des affaires nous supporte. C'est juste d'arriver avec des bons, c'est ça, justement des bons projets. Puis d'avoir des gens qui arrivent avec des opportunités. Puis c'est sûr que ça prend du monde généreux, qui donne du temps, du bénévolat, de permettre d'avoir des connexions aussi. C'est ça qu'il faut, hein. Faut que tu rencontres du monde qui ont des clés pour te débarrer des portes que des fois tu n'es pas capable de débarrer après plusieurs années. Puis là, oups, tu rencontres la bonne personne. Puis tu peux débloquer des projets que ça fait longtemps qu'on planche dessus.
On va continuer à parler de ces projets justement en musique. On revient avec Nicolas Saint-Pierre, directeur général de Mira. Reste avec nous.
Thank you.
Amélie avec L'amour ado, tiré de son album Les Éclats, paru en 2016. Petite pièce de la scène francophone, vous pourrez la voir en spectacle au Francofolie. Donc, on continue. On a toujours Nicolas Saint-Pierre, directeur général de l'organisme MIRA, avec nous dans nos studios. On parlait en première partie d'émission. En fait, on a vraiment fait un portrait global de MIRA, du fonctionnement de MIRA, de sa fondation. J'aimerais qu'on se penche maintenant sur les différents programmes, surtout ceux qui ont émergé dans les dernières années. On sait que d'abord, ça a été créé pour vraiment entraîner des chiens guides pour servir de yeux, finalement, aux personnes mm-hmm. malvoyantes. Mais il y a aussi d'autres fonctions que les chiens peuvent remplir.
Oui, c'est ça. Comme je disais plus tôt, on produisait quand même beaucoup de chiens guides. Puis on avait comme des chiens qui étaient rejetés des programmes. Puis on trouvait que c'était un peu dommage. Puis à l'époque, il y a quelqu'un qui nous a approché, un paraplégique, Raymond Barry. Puis il est venu chez nous, puis il a dit: moi, j'aimerais ça avoir un chien qui m'aide à tirer mon fauteuil, j'aimerais ça, me promener, c'est cyclable, tout ça. Moi, intéressant, pourquoi pas? Nous, on était tellement focus sur le chien guide, tout le campus au complet, la fondation, il est monté comme vraiment pour les chiens guides, mm-hmm. Les trottoirs autour du chenil, des fausses traverses, des quatre coins, des bonnes fontaines, des fausses bonnes fontaines, des fausses, tu sais, des faux ménoles, tu sais.
Fait que... Une mini-ville.
Oui, parce que tout notre entraînement, on l'a fait avant d'aller en ville. Les chiens, ils comprennent de quoi on parle quand on rentre en ville. On entraîne tout sur le site avant. Donc on a commencé ça, tranquillement, puis on aimait ça. On a surtout aimé les sourires qu'on voyait dans la figure des gens qui essayaient ces chiens-là, puis... tranquillement, mais on a construit ce programme-là. Mais à l'époque, les chiens tiraient à gauche. Bon, c'était un peu n'importe quoi. C'était des vieux harnais de chiens guides qu'on essayait de mettre un peu efficace pour les chiens d'assistance. On a même essayé des harnais de chiens de traîneau. On a vraiment exploré.
Beaucoup d'essais-erreurs.
Oui, absolument. Puis, mais beaucoup de plaisir. Puis, tranquillement, mais là, les fonctions ont commencé à se peaufiner, les demandes aussi. Les gens disaient: ah, moi, j'aimerais savoir un chien comme ci, comme ça. Puis, avec le temps, on s'est ramassé avec des gens qui ont des maladies dégénératives, qui viennent chercher des chiens chez nous, des gens qui ont de la sclérose, qui ont des bonnes journées, mauvaises journées, qui ont besoin d'un chien pour marcher des journées, d'autres journées qui sont avec leur fauteuil, puis le chien est juste à côté d'eux. Après ça, ben tranquillement, des gens qui viennent en fauteuil roulant électrique, qui ont besoin d'avoir des rapports d'objets, d'avoir de l'aide pour enlever les chandails.
Mm-hmm. Le chien peut aider à retirer une veste.
Oui, c'est ça. Un coup que tu apprends à prendre, le chien, il apprend à prendre. Bon, c'est facile quand même d'enseigner ça au chien. Donc, tout ça, c'est tout. Il y a eu une ébullition de créativité là-dedans. Puis tranquillement, mais on a peaufiné le programme. On a construit un hébergement qui était adapté pour les personnes en chaise roulante parce qu'à l'époque, on n'avait pas ça. On était dans un hébergement chien guide qui était fait pour du monde qui marche, pas du monde qui sont en fauteuil. Mm-hmm. Donc, on a construit un hébergement pour les personnes handicapées physiques avec des gros corridors. Étant donné que l'hiver, c'est beaucoup plus difficile pour eux, on a fait des gros... Il est un peu construit dans l'idée du chenil. Donc, c'est des grands corridors, des grands espaces qu'on est capable de travailler à l'intérieur puis couvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avec les chiens avant d'aller dehors. Donc, ça a été fait. Puis, mais là, aujourd'hui, on est rendu qu'on en donne environ 60 par année. Puis, c'est un programme qui est majeur.
Est-ce que ça a pris plus de place que les chiens guides?
Ouais, là, en ce moment...
La demande est plus grande?
Oui, la demande est plus grande. Puis, mais c'est normal. Il y a plus de gens en fauteuil que de personnes aveugles au Québec, là. Donc, effectivement, il y a plus de gens qui sont intéressés à avoir ces chiens-là pour leur donner un coup de main, là.
Il y a aussi le rôle du chien d'assistance pour les enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme.
Ouais.
Comment ça se passe, ce lien-là aussi entre les enfants et les chiens?
Ça, c'est un programme qui ça fait à peu près une dizaine d'années qui existe. Puis ça aussi, c'est encore une autre exploration, demande d'un parent qui est venu voir Noël Champagne, qui est psychologue chez nous, puis qui avait un enfant qui est autiste, puis il dit: moi, j'aimerais ça peut-être un chien, ça me donnerait peut-être un coup de main. Puis encore là, on produisait des chiens, puis on en avait qui étaient comme disponibles. Ou à place de les redonner aux familles d'accueil ou de les vendre au grand public, mais on aime bien mieux les utiliser puis qu'ils servent à quelque chose, nos chiens. Donc ça a été ça, puis on s'est mis à explorer ça avec ces parents-là. Et puis là, on a observé qu'effectivement, il y avait quelque chose qui se passait entre le chien et les enfants. On appelle ça le spectre de l'autisme parce que le spectre est énorme. Il y a du monde qui sont plus sévères, il y en a qui sont légers. On s'est aperçu que, ben, au début, la grosse, grosse, grosse affaire, c'était le sommeil pour la famille. Les enfants avaient tendance à vraiment dormir plus ou avoir le goût d'aller dans leur chambre, se coucher avec leur chien, contrairement à avant que c'était à coup de 2 heures, à coup de demi-heure, à coup de ça, que les parents étaient obligés de se lever durant la nuit, mais pas juste la première, deuxième année des enfants, des petits bébés, mais jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Donc, moi, je me rappelle qu'une mère nous a dit, moi, je me rappelle, le 29 octobre 2007, mais c'était la première fois que j'ai passé ma première nuit. Donc là, quand tu entends ça, les parents sont fatigués, évidemment. Donc, quand tu entends ça, tu fais, oups, ça, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis, c'est les parents qui ont fait que, comment on entraîne nos chiens, qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est quoi l'utilité réelle. Puis, avec le temps, mais là, on s'est aperçu que, mais il y a des enfants qui faisaient au niveau des routines, changer de leur routine, c'était épouvantable. C'était des crises épouvantables dans la voiture. Exemple, aller à l'école, il y a un chantier de construction, ils changent de chemin. Là, le petit commence à crier dans le camion en arrière. Mais là, avec le chien, ça n'existait plus, ou très peu. Capable de sortir puis aller en vacances durant l'été. Donc, il y a vraiment eu ces effets-là. Puis le fait de pouvoir amener le chien dans les endroits publics, dans les restos, les enfants, ils restent calmes, plus calmes avec les chiens. Donc, ça a été ça qui a fait que, bon, on a dit, OK, on enclenche ce programme-là, on y croit.
On voit le rapport qui est bénéfique, justement, avec un animal.
Absolument.
Ce qui m'amène à parler, il nous reste quelques minutes, des chiens de réadaptation aussi qui sont là. On voit vraiment, justement, ce bénéfique de ce lien-là.
Ça, c'est bien. Ça fait un bout, ça aussi, que ça existe, mais on a vraiment comme poussé là-dessus un petit peu plus parce qu'on s'est aperçu que les physiothérapeutes avaient eu une ouverture par rapport à travailler avec ces chiens-là. Le chien de réadaptation, c'est un chien qu'un physio a à la maison, qui amène au département de physio d'un hôpital de réadaptation, puis qui amène le chien, puis il l'utilise pour les gens qui ont fait des anivrisses au cerveau, qui réapprennent à marcher, qui réapprennent à bouger, chercher des pourcentages au niveau de la motricité, flatter les chiens, donner des ordres aussi, des gens qui ont des problèmes d'élocution, de réapprendre à parler avec le chien, d'utiliser ça. Ça s'est passé à Sherbrooke avec Linda Rondeau. On a commencé à faire un chien de marche. Puis on s'est aperçu que le chien de marche avait vraiment des effets extraordinaires, contrairement pour réapprendre à marcher. Puis les gens parlaient, marchaient avec une marchette. Initier le pas avec une marchette, c'était l'enfer. On leur mettait le chien à côté d'eux, puis ils se mettaient à marcher tout de suite. Fait que le déclencheur se passait d'une façon 10 fois plus rapide à cause du chien. Donc, c'est sûr que Linda, les physios ont dit « Attends, là, moi, j'en veux un dans mon centre de réadapt. » Puis ça a commencé comme ça. Puis là, on en a une quinzaine de placés à travers le Québec.
C'est vraiment fascinant. En terminant, Nicolas Saint-Pierre, si on veut avoir plus d'informations sur les différents programmes, si on est intéressé peut-être à avoir nous-mêmes un chien d'assistance ou tout simplement si on veut vous soutenir, comment on fait?
La première chose, pour les renseignements pour les programmes, c'est sûr qu'on peut aller sur le site web mira.ca. La bonne vieille façon de nous appeler au 450-795-3725. Vous appelez à la Fondation, vous demandez de l'information pour le programme, que ce soit pour devenir famille d'accueil, que ce soit pour avoir des informations au niveau du programme pour les enfants autistes, pour les chiens guides, pour les chiens d'assistance. C'est certain que c'est la meilleure façon de nous parler. Toutes nos activités de financement sont inscrites sur un calendrier sur notre site web. Si vous voulez nous encourager, ben vous avez simplement à nous contacter. Ou quand vous croisez des gens qui sollicitent, ben faites-nous un petit clin d'œil puis un petit deux pour deux yeux.
Merci beaucoup, Nicolas Saint-Pierre, directeur général de MIRA. Un grand merci d'être présent dans la vie d'autant de personnes en situation de handicap.
C'est un honneur. Beaucoup. C'est vraiment un honneur. Merci.
Merci d'avoir été avec nous.
Salut.